Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jacques Beau. Bonjour, Jacques Beau.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver. On avait longuement parlé des fake news il y a quelques années. C'était votre précédent livre. Et là, vous continuez d'avoir un livre qui est en tête des ventes avec Opération Z, où vous racontez l'histoire de cette fameuse Opération Z et l'origine de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors, Jacques Beau, vous êtes colonel, vous étiez membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, que vous connaissez bien. Vous avez été aussi à l'OTAN et dans votre carrière, que ce soit au renseignement suisse ou à l'OTAN, on peut dire que vous avez côtoyé tout ce beau monde qui ne s'aime pas pendant des décennies, pendant longtemps.
Alors, c'est exact.
Je voudrais faire un parallèle avec le précédent livre. Vous avez interrogé en 2020, lorsque votre précédent livre était sorti sur les fake news, et vous dites que les crises ont des contextes sociétaux, historiques, économiques, avec des influences dont il est difficile de démêler des réalités, qu'on est sur un temps court, que les politiques prennent des décisions souvent sur un temps court, et qu'en réalité, il faut se pencher sur l'histoire et sur le temps long. Est-ce que ça résume pas, en fait, tout ce que nous vivons là en ce moment ?
Oui, en fait, ça résume à peu près toutes les crises qu'on a vécues ces derniers temps. La crise du coronavirus, la crise énergétique, la crise ukrainienne. Sont évidemment des sujets très différents, dans des domaines très différents, mais elles ont comme point commun une gestion qui est totalement déconnectée de l'anticipation. On est incapable d'anticiper les problèmes, même quand on les voit venir. Et on est effectivement, nos dirigeants sont toujours dans l'immédiateté. Et évidemment que des crises comme le coronavirus nous a touchés personnellement parce que on a nous-mêmes subi directement par le confinement, par les vaccins, que sais-je. On a vécu ça très personnellement, donc les gens étaient très sensibles à ça. Il y a des crises comme la crise, je sais pas, en Irak ou des choses comme ça, ou en Syrie ou ailleurs, qui sont plus lointaines, donc on s'en est pas vraiment aperçu. Mais en réalité, toutes les crises sont conduites avec la même, j'allais dire presque irresponsabilité, c'est-à-dire que on a des signes avant-coureurs, on sait que ça va se passer, on sait et on pourrait savoir comment ça va se dérouler, mais en réalité, on fait rien jusqu'au dernier moment. On agit au dernier moment, alors qu'on sait depuis très longtemps que le problème est en gestation, qu'il ne demande qu'à éclater au grand jour, et on fait rien du tout. On attend que ça se passe pour être confronté au problème. Voilà. Et c'est la même chose. La crise ukrainienne ne fait pas exception. En réalité, quand aujourd'hui on dit que la guerre a éclaté en février, non, c'est inexact. Ça a commencé en 2014. Le problème, c'est que la plupart des médias et nos politiciens ignorent totalement. On a des dirigeants qui conduisent à vue. Si vous voulez, moi j'ai fait partie du renseignement stratégique. Le renseignement stratégique a pour fonction d'aider à prendre des décisions stratégiques. Donc c'est l'interlocuteur, ce sont les ministres, c'est les gouvernements. Et ça a pour fonction justement d'amener des éléments de décision avant que le problème arrive. C'est-à-dire quand on voit les premiers éléments pointés, de dire aux décideurs, voilà, il pourrait se passer ça, et les indices qu'on nous font penser que ça pourrait éclater à tel moment, etc. Et donc, il faut déjà commencer à prendre un certain nombre de mesures. Et avec l'Ukraine, pour reprendre cet exemple, eh bien, on savait que le matraquage par artillerie des populations du Donbass pendant 8 ans allait un jour ou l'autre déclencher une intervention russe. Et c'est ce qui s'est passé en février. D'ailleurs, le pilonnage d'artillerie a augmenté soudainement à partir de la mi-février. Je n'invente rien. Tout ça sont les chiffres qui ont été, ou des faits qui ont été observés par l'OSCE. Les chiffres ont été rapportés, etc. Donc, je n'invente strictement rien du tout. Et les Russes ont eu, évidemment, beau jeu d'intervenir en invoquant un principe d'ailleurs typiquement onusien, dont personne ne parle, mais qui est bien réel, qui s'appelle la responsabilité de protéger. C'est d'ailleurs ce principe que la France avait évoqué pour intervenir en Libye, contre, alors cette fois-ci, des massacres qui avaient été totalement inexistants, qui avaient été inventés, mais je parle du massacre de Benghazi, notamment, dont aujourd'hui on sait que ça a été une invention totale, mais les massacres de populations civiles dans le Donbass sont bien réels, et c'est en vertu de ce principe que la Russie est intervenue. Donc, on est sur quelque chose dont on savait que ça allait venir. On n'a pas exploité, si vous voulez, les ressorts des accords de Minsk, qui auraient pu sans doute amener les parties, c'est-à-dire les Russes et les Ukrainiens, enfin, mais pas les Russes et les Ukrainiens, les populations du Donbass et les Ukrainiens, à trouver un modus vivendi qui aurait empêcher, oui, les Russes d'intervenir. Mais voilà, on ne l'a pas fait. Les deux gouvernements qui s'étaient engagés à garantir les accords de Minsk pour la France, c'était le gouvernement Hollande et le gouvernement Macron.
Puisque c'était la France et les États-Unis hein, qui étaient derrière.
Non, c'était la France et l'Allemagne, en fait, qui étaient les garants du côté ukrainien et du côté russe, du côté du Donbass, des populations du Donbass, c'est la Russie qui était garante. C'est la raison pour laquelle...
Oui, France et États-Unis, pour Minsk, je crois que c'était pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Voilà, ça c'est autre chose. Ouais, oui, c'est un autre... voilà. C'est un autre contexte. Mais effectivement, on a donc là des grandes puissances occidentales qui n'ont pas rempli les missions qu'elles s'étaient données à elles-mêmes, en réalité. Et le conflit qu'on a maintenant, c'est d'une part l'incurie des gouvernements occidentaux qui n'ont pas rempli leur mandat, et d'autre part l'incapacité des occidentaux à tempérer, pour dire, pour rester dans des euphémismes, pour tempérer les Ukrainiens par rapport à cette population du Donbass qui a été frappée pendant 8 ans. Et ça, de nouveau, je n'invente rien du tout, on a des chiffres des Nations Unies, etc.
Mais alors, est-ce que cette impossibilité de penser, finalement, de se projeter sur le long terme, cette impossibilité de se placer dans le cerveau de l'autre pour comprendre un peu comment va agir son adversaire, n'est-ce pas propre au monde occidental blanc ? Est-ce que les Asiatiques, les Arabes, les Africains, eux, ont cette possibilité ? Et peut-être même les Slaves, que je mettrais intellectuellement dans la manière de penser plus proche des Perses et des Asiatiques ?
Alors, c'est bien possible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le problème qu'il y a avec ce que vous appelez les Blancs ou les Occidentaux, c'est qu'on a cette arrogance de celui qui a réussi. C'est-à-dire que nous avons des pays qui sont démocratiques, qui ont atteint des niveaux de vie élevés, pour la plupart, avec naturellement des différences, mais dans les grandes lignes, on a atteint ça, on a des pays industrialisés, on a accès à toutes sortes de technologies, etc., etc. Et nous avons des démocraties, bien sûr, qui, grosso modo, avec des différences, fonctionnent quand même plus ou moins. Et ça nous donne le sentiment que nous pouvons donner des leçons au reste de la Terre. Et c'est cette espèce d'arrogance de celui qui a du succès, mais les Américains sont exactement la même chose, ils sont même plus hauts que nous dans ce domaine, ils ont vraiment l'impression, eux, d'avoir tout réussi et qu'ils détiennent la vérité avec un grand V. Et c'est cette arrogance qui fait qu'on n'écoute pas les autres, tout simplement on ne les écoute pas. C'est même pas une incapacité de ne pas les comprendre, on ne les écoute pas. Ils n'ont dès le départ pas raison. Et c'est un petit peu le problème que nous avons, alors que les autres pays, ils ont l'avantage sur nous d'avoir une humilité qui les, comment dire, qui les oblige pas, mais qui les incite à nous écouter. Et ils nous écoutent. Alors, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais ils nous écoutent, alors que nous ne les écoutons pas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous faisons des guerres sans comprendre comment eux conçoivent la guerre, et donc on se plante. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé partout, en réalité, parce que nous faisons la guerre comme nous pensons que la guerre doit être menée, c'est-à-dire comme elle serait menée sur un théâtre européen.
Voilà. Mais voilà. J'ai aussi peut-être une autre interprétation, et votre analyse me semble intéressante. Pendant très longtemps, on avait des militaires, des diplomates qui ont été formés du temps de la colonisation, qui parfois viennent de générations qui sont nées dans ces pays, qui ont vécu dans ces pays, qui ont fait le tour du monde. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, je vais plonger jusqu'à Lyoté peut-être. Lyoté connaissait les Arabes mieux que n'importe quel diplomate du Quai d'Orsay doit les connaître aujourd'hui. Plus ceux qui lui ont succédé peut-être, et qui sont nés même dans ces pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas une culture des livres d'histoire et des livres d'histoire géo dans les grandes écoles. On fait un séjour de 6 mois dans une ambassade et on croit qu'on connaît le pays. Donc on n'arrive pas finalement à se placer dans leur tête.
Alors tout à fait, et ça c'est pas du tout d'ailleurs exclusif par rapport à ce que j'ai dit avant. Je crois aussi qu'auparavant, n'est-ce pas, la France, j'avais fait une fois le calcul, mais je peux me tromper, mais je pense qu'au tout début du XXe siècle, fin du XIXe, lorsque la France avait son immense empire, elle tenait cet empire avec quelque chose comme 30 000 hommes. Alors qu'aujourd'hui, 30 000 hommes, c'est ce qu'on déploie, n'est-ce pas, en Afghanistan. Et effectivement, on avait des petites garnisons qui partaient un petit peu partout, qui étaient même isolées, très longtemps et isolées. Moi, j'ai eu un ancêtre qui était fusilier marin et qui était en Indochine. Eh bien, quand on lui envoyait une lettre et elle prenait 6 mois pour le rejoindre et lui répondait au bout de 6 mois. Donc il y avait une année de distance en réalité entre lui et la famille qui était restée en métropole. Donc c'était des garnisons qui étaient très isolées et qui étaient en petit nombre et donc qui devaient travailler avec les populations dans lesquelles ils étaient. Il y avait donc une collaboration qui s'établissait. Ils n'étaient pas là.
Et des mariages, peut-être, parfois.
Et il y avait, alors, bien entendu, il y a eu tout ça, les mariages, etc. Mais surtout, il y avait l'obligation de comprendre le milieu dans lequel on était. Ils n'étaient pas là en force. Comprenez, ils pouvaient pas appeler des bombardiers pour venir les aider en cas de problème.
En fait, faut pas croire le cliché de la colonisation comme des sortes de gros dictateurs avec des fouets qui tapaient pour faire suer le bourneau. C'était pas ça la colonisation.
C'est pas du tout ça. Ils étaient obligés de composer avec les populations locales parce qu'ils étaient souvent, c'était des garnisons qui étaient quelquefois minuscules et qui devaient s'adapter au contexte et qui pouvaient pas se permettre d'être brutaux avec tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de brutalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'abus, tout ça a existé, mais pas dans les mesures, dans la mesure qu'on imagine, et très souvent, il y avait une meilleure compréhension, et quand vous disiez que Lyotet comprenait sans doute mieux les populations arabes, les populations toute la région du Maroc, etc., qu'aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'est très probable parce que c'est des gens qui vivaient dans ces populations, qui les observaient à une époque où on ne se contentait pas de tweeter les choses, n'est-ce pas, mais où on passait du temps, on parlait, on observait, on attachait de l'importance aux croyances aussi, beaucoup plus, enfin j'entends les croyances religieuses, et donc il y avait une connaissance beaucoup plus profonde des choses. J'ai toujours été étonné dans mes différentes missions dans lesquelles j'ai été en Afrique notamment, de voir combien même le personnel onusien vivait dans des bulles pour expatriés et ne s'aventurait jamais avec les populations locales, ne connaissaient en fait pas du tout le pays dans lequel ils étaient en mission. Et j'ai vu la même chose avec les diplomates, d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris de voir ça. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais au Soudan, j'étais au contact avec 80 groupes armés à peu près, des groupes rebelles, et donc j'étais le plus clair de mon temps dans la jungle ou dans le désert pour parler aux rebelles tchadiens, aux rebelles du sud libyen, et etc. etc. Et tout ça. Alors que les personnels qui étaient destinés à gérer le pays n'avaient aucune sensibilité pour ce que les gens pensaient, comment ils pensaient, comment ils voyaient leur région, leur environnement, etc., etc. Et donc, on répète des mauvais schémas de mauvais colonisateurs en réalité. Et voilà. Donc, on est dans des gestions de crise qui sont effectivement informées par des schémas, des préjugés, et qui ne permettent pas de résoudre les problèmes dans le fond des choses. Et quand vous voyez la lutte contre le terrorisme, qu'elle soit en métropole, en France, ou à l'étranger, enfin dans des pays comme la Libye ou le Mali ou l'Afghanistan, on voit que c'est des échecs complets parce que les gens n'ont pas l'habitude de comprendre, d'essayer d'être dans des logiques différentes. Les gens ont souvent des logiques très différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, elles sont simplement différentes. Il y a une autre approche des choses, c'est tout. Mais on n'est pas capable de le faire. Et la culture qu'on donne aujourd'hui aux gens, et je vois, j'ai l'occasion de travailler quand même avec beaucoup de jeunes universitaires, j'étais très surpris de voir l'absence totale de culture générale qu'ils ont, l'absence totale de compréhension pour les autres cultures, alors que on pourrait s'imaginer que en 2020, on est, enfin 2022, vous allez dire, mais qu'on ait des gens qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont beaucoup plus à l'écoute du reste du monde. Eh bien, pas du tout. Pour eux, le reste du monde, c'est ce qui se passe sur Twitter et sur Facebook, mais c'est pas ce qui sort de là et le réinconnu en réalité.
C'est un paradoxe finalement, parce que plus la société, c'est hors sujet, après on va revenir à votre livre Opération Z, hein, Jacques Beau, mais plus la société est plongée dans le politiquement correct, l'antiracisme, le respect de l'autre sur les phrases, plus elle est devenue raciste finalement, à ne pas écouter les autres et à les mépriser.
Absolument. Je pense que aujourd'hui, et c'est très visible d'ailleurs dans les médias, vous regardez aujourd'hui, par exemple, on vous parle, et à juste titre, on vous dénonce les crimes de guerre des Russes notamment. Très bien. Mais personne n'a dénoncé les crimes de guerre pendant 8 ans qui étaient menés contre les populations du Donbass. C'est-à-dire qu'en clair…
Ou contre les Irakiens.
Ou contre les Irakiens, j'allais y venir, mais je voulais commencer par les Russes. Donc, on a déjà ce sentiment que finalement, la population russe, elle n'a pas besoin des mêmes égards que les Ukrainiens. Et puis, c'est une question que j'ai posée d'ailleurs dans mon livre, d'ailleurs déjà dans le livre précédent qui était Poutine maître du jeu, et que je repose dans mon livre Opération Z. Pourquoi ce conflit en Ukraine est-il plus condamnable que les conflits que nous avons déclenchés en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye et ailleurs? Et on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, on agite des petits drapeaux ukrainiens partout. On n'a jamais agité des petits drapeaux irakiens ou des petits drapeaux libyens, alors qu'ils étaient victimes exactement des mêmes injustices et des mêmes guerres d'agression. Donc, ça montre effectivement qu'aujourd'hui, j'irais même plus loin que ce que vous avez dit, le racisme est devenu une politique. Et il est devenu une politique dans la mesure où aujourd'hui il sert des intérêts, des États-Unis ou d'autres, pour lutter contre la Russie, parce que c'est la Russie le méchant. Donc Mais on est allé très loin, je trouve, dans l'injustice d'une certaine manière, et personne ne s'est insurgé contre toutes les exactions qu'ont subi les populations du Donbass pendant 8 ans. Personne ne s'en inquiétait. Nos médias n'en ont jamais parlé. Donc, ça veut dire que finalement, c'était des quantités négligeables. Et maintenant que la guerre a éclaté, alors on vous parle des Ukrainiens, on vous parle des petits-enfants ukrainiens qui font leur rentrée scolaire sous les bombes, et je trouve ça tragique. Mais les petits-enfants du Donbass qui ont fait leur rentrée scolaire pendant 8 ans sous les bombes, personne ne les a jamais évoqués. Donc, vous voyez, on a institutionnalisé une forme de racisme quelque part. Et c'est intellectuellement et aussi humainement extrêmement dérangeant.
Alors, dans cette incapacité de comprendre l'autre, il y a aussi la capacité de se projeter l'autre. Quand vous parlez des sanctions, avec ce que l'on vit actuellement, ce que l'on voit de la vie à Moscou, aujourd'hui, en Russie, finalement, il y a toute une polémique. Alors, certains disent les sanctions fonctionnent, d'autres disent les sanctions ne fonctionnent pas, mais on peut globalement être d'accord pour dire qu'elles ne fonctionnent pas aussi bien qu'on voulait qu'elles fonctionnent. Je pense que là, on pourrait déjà tout mettre beaucoup plus de monde autour de la table. Comment se fait-il que nos intellectuels, diplomates, économistes n'aient pas perçu la réalité déjà de l'économie russe, qui n'est pas une grande économie, mais qui a la faculté au moins, j'allais dire, de pouvoir vivre en autarcie? Voilà, c'est le sens de ma question.
C'est exactement ça le problème, n'est-ce pas ? L'idée.
Parce qu'Emmanuel Macron a dit, oui, l'économie russe, la dernière fois à la télévision, il a dit, oui, l'économie russe, c'est un peu comme l'Italie ou l'Espagne, ça vaut pas grand-chose. Oui. Hein. Enfin, grosso modo, c'était presque un peu méprisant pour nos amis espagnols et puis italiens, quoi. Ça veut dire qu'ils étaient déjà un peu sous-développés. Peu importe, mais en tout cas, c'est un grand pays. Et ils peuvent vivre en autarcie. Voilà,
C'est-à-dire que ce qui se passe, n'est-ce pas, si on regarde effectivement, si on compare les PIB, alors de nouveau, il y a plusieurs manières de le compter, mais admettons qu'on le compte de manière à l'occidental, à partir du dollar ou de l'euro, effectivement, le PIB de la Russie est l'équivalent de celui de l'Italie. Mais la différence fondamentale, et c'est là où on est, en fait, nous avons été piégés par notre propre propagande. Parce que la différence fondamentale, c'est que l'Italie est endettée jusqu'au cou, d'ailleurs l'Espagne aussi, alors que depuis 2014, la Russie, qui prévoyait qu'un jour ou l'autre, on allait lui asséner une quantité de sanctions incroyable, la Russie s'est préparée à être à réduire sa dette. Donc la Russie est un des pays les moins endettés du monde. Donc ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'extérieur, il ne dépend pas de la finance extérieure. Donc quand vous le déconnectez d'un système financier, eh bien, elle n'a pas besoin de rendre de l'argent, elle n'a pas besoin d'en emprunter, donc elle est effectivement dans un système quasi autarcique au niveau financier. Et puis après, elle a suffisamment de ressources naturelles et de ressources agricoles et industrielles pour effectivement vivre en autarcie. Le problème, c'est que personne en Occident n'avait pensé à ça. On s'est limité à comparer la grosseur des PIB. Et là, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que en 2019, il y a un think tank américain qui s'appelle la RAND Corporation qui a écrit deux rapports à l'intention du Pentagone. La RAND Corporation, c'est une institution qui a été créée pour conseiller les stratèges du Pentagone dans les manières de stratégie globale, si vous voulez. Et ils expliquent, c'est dans ces deux publications, comment affaiblir la Russie par des sanctions, par l'isolation, etc. Et en réalité, tout ce qu'on observe aujourd'hui, y compris la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le fait de distribuer des armes à l'Ukraine, la volonté de changer de régime au Bélarus, tout ça est décrit dans ces rapports qui ont été écrits en 2019, je le rappelle, donc 3 ans avant la guerre. Et tout ça est parfaitement décrit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport écrit aussi, il dit « faites attention » parce que c'est très joli de faire tout ce qu'on a écrit dans ce rapport, mais en réalité, nous avons construit cette stratégie sur la base de critères qui sont pas aussi robustes que vous pourriez le penser. Et donc, en appliquant cette stratégie, vous pourriez bien vous retrouvez finalement avec les effets contraires. Et c'est écrit textuellement.
Parce que les manières de penser sont aussi différentes. On a construit cette stratégie tel que nous pensons en tant qu'occidentaux, ce qui nous a fait mal aussi. Hein. Voilà.
Exactement. Et on dit d'ailleurs, faites attention, parce que essayer de pousser l'Ukraine à la guerre, ça va conduire à la Russie à intervenir, ça va conduire la Russie à prendre des terres ukrainiennes, ça va provoquer des pertes énormes chez les Ukrainiens, et ça va les pousser les Ukrainiens à faire une paix défavorable avec la Russie. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et ça, c'était écrit en toutes lettres en 2019, c'était un avertissement. Mais personne n'a lu ça, parce qu'on a, été aveuglé par l'idée d'affaiblir la Russie. Et donc, l'idée, et d'ailleurs, de nouveau, je n'invente rien, parce que dans mon livre, je n'emploie aucune source russe, d'ailleurs, je le souligne, c'est que des sources américaines, que des sources du gouvernement américain ou des sources officielles, et des sources ukrainiennes, voire des sources de l'opposition russe. Je n'utilise pas sinon de sources officielles russes. Pour montrer d'ailleurs qu'on avait tous les éléments nécessaires, sans piocher dans la propagande russe, on avait tous les éléments nécessaires pour prévenir le conflit. Tout était là, mais on n'a pas voulu le faire parce qu'on voulait finalement un conflit. Et de nouveau, je n'invente rien parce que je cite dans mon livre une interview du conseiller de Zelensky qui en mars 2019, expliquait qu'il fallait que l'Ukraine devait entrer en guerre avec la Russie et que la défaite de la Russie serait finalement la porte d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et donc, en fait, tout a été fait à partir de là, et les Ukrainiens sont entrés dans ce conflit au début de cette année, avec l'idée que les sanctions seraient tellement massives que la Russie s'effondrerait. Et je vous renvoie à ce que disait Bruno Le Maire sur Europe 1, si la mémoire est bonne, où il disait « on va faire s'effondrer l'économie russe ». Et en réalité, aujourd'hui, de nouveau, je ne cite pas les agences de presse russes, mais les agences, pas les agences de presse, mais les revues économiques américaines qui disent l'économie russe est florissante aujourd'hui. Et en fait, même Reuters a dit il y a quelques jours que l'économie russe se développe à un rythme qu'elle n'a jamais connu depuis, sauf erreur, 2019 ou 2018. Donc, en clair, les sanctions n'ont absolument, enfin, je ne vais pas dire aucun effet, elles ont certainement un effet dans la mesure où il y a certainement des ajustements qui doivent être faits, mais la résilience des Russes est telle qu'ils peuvent très rapidement changer leur fusil d'épaule, et puis ils ont un allié qui est considérable, et par la maladresse occidentale, parce qu'à force d'avoir fustigé la Chine en même temps que la Russie, les deux se sont accolés. Or, la Chine aujourd'hui fournit tout ce que la Russie n'a pas nécessairement, de la haute technologie, les microchips, enfin les microprocesseurs, etc. Donc tout ce qu'on supprime à la Russie, eh bien, elle les trouve, et dans des qualités équivalentes, si pas même meilleures, puisqu'aujourd'hui, dans le domaine de la recherche sur les microchips, les Chinois sont en passe de dépasser Taïwan, et dans le domaine de la recherche et des hautes technologies, notamment technologies la téléphonie, etc., ils sont déjà à la 7G, alors que nous avons de la peine à introduire la 5G dans nos pays. Donc on voit bien que les Russes finalement bénéficient maintenant de cet antagonisme tous azimuts que les Occidentaux ont fait et qui aujourd'hui font que ça n'est pas vraiment la Russie qui est isolée, c'est l'Occident qui s'est isolé. Et on l'a vu tout récemment lorsque l'OPEP plus, donc c'est l'OPEP, les pays producteurs de pétrole plus la Russie entre autres, et qui ont décidé de réduire de 2 millions de barils par jour leur production de pétrole malgré la demande des Occidentaux. Donc ça veut dire que les Occidentaux n'ont plus la crédibilité par rapport à ces pays, et puis qu'aujourd'hui ce sont ces pays qui veulent affirmer leur autorité, si vous voulez, en matière de fixation des prix, par exemple des produits pétroliers.
Est-ce que vous nous dites, vous l'aviez déjà écrit dans un précédent livre qui est sorti au mois de mars dernier, donc qui a sans doute été écrit beaucoup plus tôt, qui s'appelle Poutine, maître du jeu, aux éditions Max Milo, hein, qui...
Voilà. Tout à fait.
Je voudrais finir avec une dernière question. Imaginez que le monde, c'est un grand immeuble avec au premier étage les États-Unis, au deuxième étage la Chine, voilà, on fait les grandes puissances. Puis comme ce sont des escaliers, voilà, on est tous assis sur des escaliers, certains tombent, certains remontent des marches, ont de la force. Nous, on était, pendant longtemps, à la troisième marche, puis après on est tombé à la cinquième marche, puis à la septième marche, huitième marche. Est-ce que tout ça nous fait encore dégringoler des marches ?
Oui, alors je pense que...
Je dis nous, je parle de la France, puisque vous êtes suisse, hein, cher
oui,
Jacques
Bourg. Oui, je suis... On s'est compris, on peut presque dire européen en réalité, parce que on va voir, on parle toujours de la locomotive allemande, mais quand on parle de locomotive, il y a aussi des wagons derrière, et... même si c'est des wagons de première classe, ils restent tirés par la locomotive. Quand la locomotive s'arrête, même le wagon de première classe s'arrête. Et on est un petit peu dans cette situation. Et il est clair que les sanctions qu'on a adoptées, d'ailleurs, les sanctions sur l'énergie qu'on a adoptées sont faites contre l'avis des Américains. C'est intéressant de voir que durant le printemps de cette année, les Américains ont tout fait pour décourager les Européens de prendre des sanctions dans le domaine de l'énergie. Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor américaine, avait déconseillé les Européens. Ils ont dit « ne faites pas ça parce que vous allez complètement déstabiliser le marché de l'énergie ». Donc aujourd'hui, on a beau jeu de dire c'est à cause de la guerre en Ukraine. En réalité, c'est par des mauvaises décisions qui ont été prises en Europe que nous allons subir. Et l'énergie, c'est le point de départ, c'est le nerf de la guerre, si on peut dire comme ça, en matière d'économie. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez plus l'économie. Et actuellement, eh bien, les Européens ont décidé déjà au mois de mai qu'ils allaient se passer de l'économie, des moyens, des ressources économiques russes. Donc, c'est pas les Russes qui ont décidé d'interrompre, c'est les Européens qui ont dit on va arrêter, ils ont mis le délai à la fin de l'année. Donc, les Européens savaient qu'ils allaient complètement arrêter leur approvisionnement de Russie. Et les Russes, bah, eux, il n'y a pas de problème parce que tout le monde a besoin d'énergie. Et l'énergie qu'ils ne livrent pas à l'Europe, eh bien, ils la livrent à l'Inde et dans d'autres pays. Et puis, vu que le marché s'est rétréci par les décisions européennes, eh bien, les prix ont augmenté, ce qui fait que les Russes, en vendant moins, gagnent plus et leur économie, donc, va bien. Alors que les Européens qui ont bâti, parce que nous avons construit notre prospérité sur l'économie bon marché, qui en grande partie venait de Russie, eh bien, nous n'avons plus cette économie bon marché, et par conséquent, nous allons commencer à devoir manger notre pain noir, parce que les produits que nous produisons seront moins compétitifs. On voit déjà en Angleterre et dans l'Est de l'Europe des grandes entreprises pharmaceutiques, de production d'engrais, etc., qui ferment, ou même des hauts fourneaux, des entreprises métallurgiques qui ferment, parce qu'évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, c'est extrêmement coûteux, et leurs produits ne sont plus compétitifs sur le marché international. Et donc, on s'achemine vers une péjoration, en réalité, de notre potentiel économique, et on risque bien de redescendre. Et ça fait le jeu de la Chine, qui, à l'inverse, n'est pas du tout touchée par ces sanctions, qui bénéficie de ses liens privilégiés avec la Russie et donc qui a accès à une énergie bon marché. et qui a une capacité à la fois intellectuelle, une capacité de ressources, j'entends, en matière de recherche et développement, qui est telle que on est en train de stimuler la Chine, qu'on a déclarée comme étant notre principal adversaire économique pour ces prochaines années. Donc on a tout fait faux. Si on avait voulu se mettre dans les problèmes, si on l'avait voulu expressément, on n'aurait pas fait différemment. Donc il y a quelque chose qui joue pas.
Oui. Merci Jacques Beau pour cet entretien passionnant et pour ce travail, le livre aussi passionnant numéro 1 des ventes, Opération Z de Jacques Beau aux éditions Max Milo. Vous racontez évidemment toute cette guerre. Je rappelle, colonel Jacques Beau, que vous avez été analyste stratégique dans l'armée suisse, dans le renseignement. Vous avez également été à l'OTAN, vous avez même suivi la crise ukrainienne de 2014 pour l'OTAN. Donc on peut dire que vous connaissez vraiment bien votre sujet, que vous avez une légitimité pour prendre la parole là-dessus. Merci, Monsieur Beau.
Merci à vous. Merci.